table. Resto, radio, loco. Erdiwa. Mes chers parents, l'autre jour, 17h30, déjà le soir, déjà la nuit se fait et les lumières de fête bleutées, les dernières étoiles de Noël municipales brillantes dans les flaques et les carrosseries des voitures. Il pleut. À cette heure, je n'aimerais pas être un passant dans la rue de l'Armellerie, tout serré sous mon parapluie et mes chaussures trempées, avec un petit qui pleure parce qu'il n'a pas eu son goûter, ou les bras chargés de paquets pour le réveillon, un chien en laisse qui s'arrête tous les 10 mètres, ta chérie qui fait la gueule. Non, non, il pleut, et j'attends au loco, bien au chaud, peinard, occupé de pensées et de bêtises, un petit canon de vin rouge, Mozart l'Égyptien, doux et grandiose, un peu amoureux sans doute. Et pour passer le temps, je plie du linge, des torchons et des tabliers lavés de la semaine. Quelle belle satisfaction de ranger ces petites affaires propres et odorantes. J'essaye de faire comme ma grand-mère, ordonné et calme, heureux de si peu, classé, plié, presque repassé. Au sec, au devant de la vitrine du resto à peine éclairé, un peu dans la lumière mais pas trop, peut-être pour que les passants éclaboussés dans leur manteau détrempé devinent la scène, qu'ils la saisissent à peine, une scène ordinaire et tellement banale. Un homme seul dans son magasin désert, lugubre presque, pathétique par ses temps de fête et de joie, un homme seul plie du linge, seul. Qu'il puisse se dire quelque chose, peut-être. Regardez comme il a les traits tirés. Voyez comme ses joues sont creuses, ses bras maigres, son regard blanc et sa mine grise. Regardez un homme seul qui plie du linge, seul. Si on allait l'aider, les filles. Ou alors, vous avez vu cet homme qui est là depuis le petit matin? Quel courage! Il en faut du cran pour tenir. Ça doit pas être toujours drôle. Il faudra quand même qu'on vienne manger un de ces jours. Mais on ne sait jamais quand est-ce qu'il est ouvert. Ou encore, il est encore là, ce couillon. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il ne peut pas le lâcher, son fourbi? Je sais pas, moi, il n'a pas autre chose à faire. Qu'est-ce qu'il faut pas se dire quand on plie du linge seul en écoutant en boucle Mozart l'Égyptien et qu'on a en tête quelques idées légèrement paranoïaques? Tiens, mon voisin d'en face, vous savez, la pizzeria, Pili Pili. Quand je vais le saluer pour lui demander des nouvelles, m'informer de son état, il me répond à chaque fois, avec le même rire, comme si la réponse était inscrite au menu. Toujours, toujours, sans broncher, sans l'ombre d'un doute, sans l'once d'une hésitation, il me répond. Tranquille. T'es tranquille, toi. Comment tu fais? J'admire ça. Alors, il me répond en allumant sa Marlboro. Vaut mieux être tranquille, ça ne change rien de toute façon. On n'a qu'une vie, il faut prendre le meilleur. Ça sert à rien de s'embrouiller la tête avec des idées pas bonnes. T'es tranquille et ça se passe bien. Tu fais ce que t'as à faire. Après, ça passe. Alors, lui, il n'a pas besoin d'un rendez-vous avec Stéphanie Dumas. C'est moi qui vous le dis. Pas besoin d'une séance de yoga ou d'acupuncture, de shiatsu ou de faire des respirations ventrales, de manger sans gluten ou d'écouter Mozart l'Égyptien. Va peut-être falloir que je me mette à Skyrock un de ces jours. À la fin de l'année, on fait le bilan. Combien de kilos de patates? Combien de bouteilles de bière? Combien de joie et de peine? Combien de papier toilette et d'éponge? Combien de mots pour ne rien dire? Combien de plaintes et de rires? Combien d'additions et de soustractions? Combien de bonjour et d'au revoir? Combien de machines à laver le linge? Combien de lourdeurs à l'estomac? Combien j'ai fait? Il va être temps que je me mette à la compta, de saisir toutes les entrées et les sorties, de faire le point sur les conditions de vol. Ouf, mon Dieu, à propos de vol, ça me fait penser à un truc. J'ai reçu le montant de la facture SACEM. Additionné à celle du spray, je dois payer plus de 800 euros dans l'année. Tout ça pour regarder en musique la pluie tomber. Non, mais ça va pas la tête. On m'a dit que c'était pour payer Johnny Hallyday et Michel Sardou. Ah, comme on aime bien se le dire entre commerçants, on est vraiment des vaches à lait. Tranquille. Tranquille, no stress, pas de panique. Pour l'instant, vous êtes à l'écoute de Erdivois. Et toi maintenant, rentre chez toi. Le linge, tu le finiras demain. S'en aller, lâcher l'affaire. Mettre un tour de clé et partir.
Partir avec toi, voir si la terre est bien ronde. Partir avec toi, à l'autre bout des mondes. Sourire avec toi, à gorge déployée. Sourire avec toi, quitte à se damner. Se salir avec toi, se baigner dans la suie. Se salir avec toi, se saigner sous la pluie. Partir avec toi, voir si la terre est bien ronde. Partir avec toi, à l'autre bout des mondes. Sentir avec toi, le parfum des aurores. Sentir avec toi, le malaise et la mort. Trahir avec toi, nos pensées les plus salaces. Trahir avec toi, sans laisser de traces. Partir avec toi, voir si la terre est bien ronde. Partir avec toi, à l'autre bout des mondes. À l'autre bout des mondes. Mourir avec toi, après le temps qui court. Mourir avec toi, comme on crève de trop d'amour. Finir avec toi, comme un conte se termine. Finir avec toi, comme on s'aime, se réanime. Partir avec toi, voir si la terre est bien ronde. Partir avec toi, à l'autre bout des mondes.
Thomas Winter et Bog. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un gars, 36 ans environ, une petite frange coupée court sur le front, un futal et des mains toujours tachetées de traces de plâtre, qui se faufile dans les rues sans se montrer et partout, souvent dans les festivals, accroché à une échelle, des câbles électriques en bandoulière. Là où il y a des gens qui font la fête et qui se sentent heureux parce qu'il a fabriqué un bar avec des bouts de ficelle et des tôles rigolotes envoyer du son qui sonne puissamment, généreusement. Dernièrement, il est venu faire une installation de ses dessins et de machinerie sonore au Loco Loco. Pendant toute une semaine, il est venu, chaque jour, y déposer quelques-uns de ses croquis de voyage. Désormais, il y a comme une ambiance de gare, de moteurs qui sentent bon l'aventure et l'étonnement. Ce gars, c'est Nolwenn Goupil. Vous le connaissez, Jean du Diwa, mais pas assez. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est autour de la table, assis enfin, et que vous allez l'entendre. Après un bac et un brevet de technicien en topographie en poche qu'il obtient au lycée de Saint-Brieuc, Nolwenn entre en fac d'art plastique à Rennes, puis à l'École des Beaux-Arts de Lorient avant d'intégrer celle de Toulouse, où il décroche un diplôme national supérieur d'expression plastique. Après quelques années d'enseignement dans un collège et de nombreux voyages, Nolwenn s'inscrit au Greta de Die, où il se forme à la réhabilitation du patrimoine, enduit et décor. Aujourd'hui, vous pouvez le croiser là où il y a des trucs jolis et curieux, poétiques et festifs, des trucs qui s'écoutent, qui se regardent ou qui se touchent, des trucs qui font du bien. Bonjour Nolwenn.
Bonjour Vincent, merci de m'accueillir à cette émission autour de la table. Je vais parler un petit peu de moi. Du coup, mon parcours, je viens de Bretagne, un pays qui est un petit peu loin d'ici, en bord de mer.
Alors après une formation, des études en topographie, tu commences une formation artistique, d'abord à la fac, puis à l'École des Beaux-Arts. Comment est-ce qu'on peut passer du dessin technique au dessin d'art ? C'est une continuité, une transformation, un aboutissement ?
C'est une forme de continuité, oui, effectivement. Dans le dessin technique, il y a d'abord le dessin qui est lisible de tous. Concrètement, donc au niveau des plans cadastraux, des plans topographiques, etc., ça m'a beaucoup aidé aussi à me construire et à me construire dans des espaces, des lieux. C'est un peu un dessin lisible de tous. J'ai commencé à dessiner en école effectivement technique pour aboutir plus au niveau artistique parce que le technique ne me correspondait pas exactement. L'idée de dessiner toujours ce trait assez fin, répertorié, pour construire un petit peu des nouveaux lieux finalement, des nouveaux lieux de genre physique, des nouveaux espaces.
Dans les cartes que tu dessinais à l'époque, il y avait déjà des idées, des envies de transformer ça et d'en créer, d'en faire quelque chose d'artistique.
Ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est une base technique au niveau du dessin. Et ensuite, moi, j'ai voulu l'exprimer à ma façon, à ma manière. C'est-à-dire de plus passer d'un espace à un autre, essayer d'avoir toujours ce câble qui passe d'un lieu à un autre lieu, ce trait fin, cette manière d'appréhender l'espace finalement, d'une façon différente par rapport au dessin technique en tout cas.
Dans tes dessins, tu parles, tu racontes tes voyages, tu évoques le déplacement, le chemin. Et l'exposition que tu présentes régulièrement et en ce moment même aux locaux s'appelle « Étape ». Et en sous-titre, tu écris un parcours qui invite davantage au voyage plutôt qu'à sa destination. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Grossièrement, je m'intéresse à tout type de déplacement. Après, je passe effectivement d'un espace à un autre. C'est une façon pour moi de construire en fait une forme de topographie, de cartographie, de répertorier des points, des étapes de déplacement, des étapes de parcours. Et après, en termes de ce qui m'intéresse le plus, finalement, effectivement, c'est pas la destination, c'est pas là où je me déplace. C'est tout l'itinéraire qui s'est passé entre voilà, l'endroit où je me trouve jusqu'à cet espace, ce lieu que j'ai envie de montrer, à voir.
Qu'est-ce qui se passe dans un déplacement ?
Dans un déplacement, il y a plein de choses. Moi, je sais que je déambule souvent avec des carnets, des petits lecteurs enregistreurs de sons, des appareils photo. Voilà, je pérégrine, je récupère plein de petites informations pour les mettre, pour les rendre visibles, mais finalement dans un autre espace. Comme si je sortais finalement un élément voilà, qui m'a... sur lequel je me suis arrêté à un moment dans mon déplacement, et j'essaie de le sortir de cet espace-là pour le rendre visible d'une autre manière, finalement. Quoi. Une manière plus artistique et qui m'est plus propre, on va dire.
Dans l'installation que tu proposes actuellement aux locaux, on peut voir, entendre des moteurs, des boîtes, des écrans, des haut-parleurs, et on peut entendre des sons. Quelle importance pour toi tous ces objets récupérés, captés, démontés, mis à nu ?
Ouais, en fait, moi, je suis beaucoup dans le glanage, c'est-à-dire je glane plein d'objets divers et variés, beaucoup d'objets du quotidien, finalement, auxquels on n'apporte plus vraiment sens, en tout cas, on les regarde plus en tant qu'objets, parce que ça fait réellement partie du quotidien, donc on les oublie dans le flux quotidien, on va dire, d'informations, d'images. Et du coup, voilà, c'est les sortir un peu de leur contexte pour les montrer à voir, à ma manière. Et souvent, finalement, c'est des petits objets qui vraiment n'ont aucun sens, on va dire. C'est-à-dire des objets qu'on regarde plus, sur lesquels on se pose plus. J'ai beaucoup travaillé sur des laveries automatiques, des machines, des trains, toujours dans ce déplacement. Et voilà, essayer de récupérer ces différents objets, de les montrer voilà, d'une autre manière, quoi.
Tu les cherches ou tu les rencontres au hasard de tes voyages ou...
Je me considère plus comme un photographe, c'est-à-dire je viens capter l'image, capter un endroit, capter un objet et je les sors de leur contact. Mais c'est vraiment cette idée de en me déplaçant, finalement je tombe sur un objet qui m'intéresse, une petite machine, un ventilateur, un câble, que je récupère et que je ramène chez moi, tout simplement.
Ces objets te racontent des histoires ?
D'une certaine manière, oui, ils me racontent une histoire, et en tout cas, j'ai envie de tisser une histoire avec ces différents objets, ouais.
Ouais.
Il y a un côté comme ça, ouais, de vraiment toujours dans la récupération,
Tu me disais que, en préparant cette émission, que tu vivais très mal le fait qu'on puisse jeter des choses. Que tu avais de l'empathie même pour une vieille boîte ou un moteur que tu trouvais dans une vieille carlingue.
Tout à fait, ouais. Je trouve que c'est des objets. Moi, je suis effectivement quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jeter des choses, plutôt récupérer des choses qu'en jeter. C'est plus. Dans une dynamique de récupération et de remettre à visible, on va dire, cet objet dans un autre contexte et de le faire vivre ou de le refaire vivre. Après, ça dépend un petit peu de l'objet, de la situation aussi.
C'est une manière d'être attentif aux émotions qui nous entourent et d'en créer d'autres.
Ouais, tout à fait, ouais.
Créer de l'émotion.
Ouais. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions dans les petits objets du quotidien sur lesquels on ne pose plus un regard. Par exemple, moi je travaille beaucoup le sonore, et le sonore c'est un petit peu ça, c'est-à-dire glaner des sons qu'on n'entend plus puisqu'on est dans un flux sonore quotidien et qu'on n'a plus l'oreille assez aiguisée pour aller écouter des petits sons perdus. Quoi.
Entre tous ces objets... Tu disposes des câbles, des fils électriques noués ou ballants. Qu'est-ce qu'ils te racontent? Qu'est-ce qu'ils viennent exprimer, ces liens que tu tisses comme ça entre tes dessins, entre ces objets trouvés, entre le présent et le passé ou celui qui est à venir?
C'est comme comme un courant électrique, c'est-à-dire ça part d'un endroit pour arriver à un autre. Et du coup, moi, j'essaye de décomposer un petit peu justement ce flux électrique, c'est-à-dire en récupérant donc ce câble, effectivement, est toujours présent dans mes installations. Je dessine même avec. C'est devenu même un matériau de mon travail, au même titre que les vieux haut-parleurs, les choses comme ça. Et c'est comme des coordonnées, finalement, tous ces haut-parleurs, c'est comme une géographie avec des points, comme des villes ou des villages, etc., où on se déplace finalement d'un endroit à un autre, d'un lieu à un autre.
C'est tracer des routes et peut-être des chemins qui n'existent pas.
Voilà, c'est un petit peu ça, ouais, c'est-à-dire de mettre la pause là où j'ai envie de me poser, c'est-à-dire de décomposer un petit peu ces itinéraires. Et de...
Alors tu parlais de pause et de faire la pause, et c'est quelque chose que je crois que tu fais rarement. Par contre, quand tu disposes d'un espace vide pour créer une installation ou à l'occasion d'un festival, par exemple, on en parlera tout à l'heure, et que tu viens comme ça disposer des objets, des dessins, des pensées aussi, des textes. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Dans quel état es-tu?
Moi, je pense que c'est un besoin. C'est un besoin de toujours me...
C'est pas grave, c'était le...
Ouais, c'est juste un bout de papier qui est tombé. Voilà, l'idée de récupérer plein de choses et voilà,
Ouais, et dans ce moment de solitude et d'isolement un peu, quand tu te mets dans une bulle créative, d'installation, quelle sensation tu as?
C'est plutôt des bonnes sensations, des sensations positives. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, j'ai besoin de ça. C'est-à-dire, comme tout le monde, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, moi, je travaille, j'ai une préoccupation professionnelle. Après, dans ma vie de tous les jours, j'ai d'autres préoccupations. Et c'est important pour moi de me poser, voilà, sur des petites choses insignifiantes, quoi, de mon environnement. Et voilà, au même titre que l'écrivain qui écrit, le peintre qui peint. Enfin, c'est vraiment une dynamique, voilà, de se poser soi à dessiner essentiellement, puisque moi je dessine beaucoup. C'est vraiment des moments, une forme d'écriture comme ça, où c'est un besoin physique aussi de me retrouver dans ce contexte-là.
Et quand on voyage et qu'on fait des dessins sur ses genoux, dans un quai de gare ou sur un bus, c'est une manière aussi de prendre du temps pour soi, de soigner son intériorité. Je sais pas.
Ouais, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que quand je me déplace, il y a toujours cette idée de préoccupation, en fait, on pourrait mettre entre guillemets le côté travail, c'est-à-dire d'être toujours dans une dynamique de faire des choses. Moi, je suis pas vraiment inerte, hein, je suis toujours un peu actif comme ça, donc du coup, ça me permet ça.
Alors, tu as fait également une formation au Greta, je disais tout à l'heure, réhabilitation du patrimoine, et tu t'es spécialisé dans la réalisation d'enduits fins. Alors c'est tout à fait un autre travail, une autre manière de s'investir dans une action. Alors là, à ce moment-là, tu t'adresses plus à un public, mais à un particulier. Et ce qui m'intéressait de savoir, c'était quelle pouvait être l'importance pour toi d'être dans une relation, là, pour le coup, privilégiée ou une relation duelle avec un client, un artisan, être dans un moment un peu différent d'une vie d'artiste où on est alors soit seul ou alors confronté à un public.
Ouais, mais il y a un petit peu de tout ça. En fait, c'est toujours le fait d'habiter un lieu, quoi, d'habiter par exemple, dans mon art, dans ce que je produis, en tout cas, c'est C'est une manière éphémère de parler des choses, alors que le bâti, notamment en termes d'enduit, c'est des choses qui vont rester, des choses qui, voilà, de réellement habiter quelque chose, mais plus dans l'espace-temps, on va dire plus lointain que le simple fait de faire une petite installation sonore au loco-loco qui va durer un mois et qui va s'en aller comme elle est venue, quoi, comme elle est arrivée. Donc il y a un petit peu, voilà, toujours ce... Le bâtiment, moi, ça m'a toujours intéressé, parce que c'est un visuel. En même temps, je me sens dominé, par des espaces grands, quoi, au même titre qu'une montagne. Voilà, on est tout petit par rapport à ça. Et que dans les enduits, il y a un côté, qui reste. Qui reste, qui va parcourir les générations aussi. Qui va transmettre des choses, puisque le bâtiment, quand on fait un enduit, c'est vraiment, poser quelque chose qui va rester, qui va réellement vivre et qui va être vu de tous aussi, d'ailleurs. C'est plutôt la différence, d'ailleurs, avec le dessin, où là, c'est vraiment quelque chose qui est très intérieur, où on va rester enfermé chez soi, à dessiner l'espace de la page blanche, etc. Là, c'est vraiment quelque chose qui va être visible de tous, pas forcément de tous, mais en tout cas des gens qui parcourent ce lieu.
Et alors toucher ce que tu disais tout à l'heure, toucher ce qui te domine, ce qui est au-dessus de toi, immense un peu comme ça, et puis qui va durer dans le temps, la sensation est forcément très 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 différente, quoi. On n'aborde pas la chose du tout de la même manière. Dans quel état on se trouve quand on refait un mur avec un enduit, une réhabilitation, une rénovation d'un bâtiment ancien?
Ben, je pense déjà, dans un premier temps, si on devait mettre des mots sur ça, c'est la transformation, la modification, enfin la transformation de quelque chose, finalement, quoi. Au même titre que dans mes installations, c'est transformer un lieu. C'est-à-dire que quand j'arrive dans un lieu, moi, j'expose pas dans des galeries, avec des murs blancs, des espaces un peu qui me paraissent moins insignifiants. C'est plus des lieux, qui sont chargés d'histoire, chargés d'un vécu. Dans l'habitation, il y a ce côté-là, c'est-à-dire que les murs s'imprègnent aussi d'un vécu et de ce qui va s'y passer, de ce qui s'y est passé. Enfin, voilà, il y a toujours une vraie identité, quoi, de cet espace. Du coup, c'est un peu ce... choses-là qui m'intéressent.
Et ce travail te permet aussi d'inventer des enduits, des peintures, et de continuer finalement un travail de chercheur, d'artiste finalement.
Ouais, c'est toujours un petit peu dans l'alchimie. Il y a ce côté, effectivement. Moi, je travaille beaucoup avec des peintures naturelles. Je fais beaucoup de stuc, tas de lacs, enduits fins. Et voilà, c'est toujours dans travailler la matière, en fait, travailler de ses mains, comme un chercheur, effectivement, dans son petit laboratoire qui va tester des choses, essayer, etc. Je suis toujours dans cette démarche-là de pour moi, c'est un peu un aboutissement aussi de ma vie, c'est-à-dire de construire des choses et de travailler vraiment pour en faire un autre lieu, quoi. Comme dans le bâti, c'est vrai que c'est un bon exemple, parce que tu pars d'un bâtiment qui est délabré, qui a déjà eu du vécu et qui est à refaire, en fait, finalement. Donc tu vas transformer ce lieu en essayant de conserver, enfin moi, ma manière de travailler, en tout cas, c'est celle-ci, c'est que j'essaye de garder, de façon harmonieuse, bien sûr, mais de garder les formes du bâtiment, d'essayer de pas toucher, on va dire, à la structure du bâtiment, juste lui redonner vie, quoi.
Alors tu parles souvent du travail, et je crois que c'est une notion qui est importante pour toi, et il y a quelque chose que tu défends même autour de ça, autour de cette question-là, le travail.
Ouais, parce que la valeur travail, c'est une valeur qui a beaucoup changé aussi dans ces dernières années. En fait, on pourrait même dire, la valeur travail, pour moi, c'est pas un terme péjoratif, c'est-à-dire que on peut parler d'activité, on peut parler de choses qu'on fait, etc., sans émettre le mot travail. Après, moi, je l'exploite, ce mot travail, et ça me fait absolument pas défaut, quoi.
Et ça te fait peut-être même envie ?
Oui, moi je pense qu'à un moment, oui. Oui, ça me fait envie parce que je trouve qu'aujourd'hui, ben, notamment la jeune génération, voilà, on perd un petit peu le fil du truc en s'avouant que finalement on n'a pas envie de travailler, qu'on est anti-système, que toute une démarche un petit peu politique aussi qui s'y mêle, enfin il y a plein de choses. Que du coup, non, le travail, c'est juste exploiter ses mains, exploiter sa tête aussi, de construire des choses, d'avancer, quoi. Je pense pas que voilà, quelqu'un aujourd'hui qui ne fait absolument rien soit satisfait de sa situation, je pense pas. On a tous besoin de produire parce que c'est une forme d'identité aussi, de se retrouver dans ce monde, d'avoir une importance, un respect, une reconnaissance.
Oui, c'est une manière de s'adresser à l'autre, de lui dire écoute ou regarde ce que je pense ou ce que je fais.
Ouais, tout à fait. Moi, quand je fais des expositions, ce que je fais rarement d'ailleurs, c'est aussi pour ça, c'est aussi pour redonner goût aussi à des personnes qui vont entrer dans le lieu, de faire des choses, de reprendre peut-être une pratique, ça, de donner envie aux gens, quoi, tout simplement, quand dans le bâtiment c'est pareil, de faire des belles choses pour que les gens voilà, s'émeuent en voyant ça et se disent, bah tiens, finalement, ouais, c'est pas si compliqué d'apprendre un métier ou de réapprendre un métier ou de voilà, d'avoir une démarche une démarche manuelle, on va dire, par exemple, puisque moi c'est ce qui me correspond le plus, mais.
Alors il y a un autre genre de travail aussi que tu fais régulièrement, c'est tu es souvent investi alors là pour le coup bénévolement à l'occasion de nombreux festivals dans la région. Ouais. Je pense notamment à la manifestation autour d'une course de caisse à savon qui a lieu chaque année à Barnave ou le festival Ferrailleur. Ouais. Il y en a sans doute d'autres. Et tu es président du comité des fêtes de Barnave, si je me trompe pas. Et alors là, voilà, c'est encore autre chose. Et l'aspect festif et public de la chose. Et qu'est-ce qui t'anime dans la création et l'animation de ces moments-là?
Bah déjà le bénévolat, ouais, c'est important. Je pense que c'est des choses qui se perdent aussi. Bon, après, pour faire du bénévolat, il faut aussi avoir une situation derrière. Moi, j'ai une situation professionnelle, donc ça me permet aussi de pouvoir faire du bénévolat plus tranquillement, on va dire. Après, ben, j'estime qu'aujourd'hui, enfin, une commune comme Barnave, par exemple, puisque je suis issu de ce village, c'est un tout petit village dans lequel, voilà, il se passait pas grand chose avant qu'on arrive non plus, je pense. Et puis, c'est bien de redonner vie à ça et de ne serait-ce que tisser du lien avec les gens, se rencontrer, leur donner envie aussi d'organiser des choses. Voilà, que ça devienne des lieux de vie. Et donc, dans les événements, moi, je m'y retrouve beaucoup parce que, voilà, c'est une manière d'apporter quelque chose pour d'autres, quoi, pour du public, toujours dans cette démarche de, voilà, d'être un peu la face cachée de l'iceberg, c'est-à-dire de. Peu importe d'avoir une reconnaissance derrière. Après, certains peut-être cherchent ça. Moi, la reconnaissance, non, c'est vraiment pas ça en tout cas, c'est pas ma motivation première d'organisation d'événements. Et voilà, donc il y a effectivement 4 ans et demi, on a commencé à organiser, enfin à se mettre plus sur l'organisation des caisses à savon, qui est un gros événement de Barnave. Et voilà, de sculpter un village voilà, pour une soirée avec plein d'animations, une espèce de magie comme ça, avec plein de choses qui s'y passent, de redonner voilà, goût à la vie, quoi, le côté simple de la vie. Quoi, moi, je trouve que l'événementiel, c'est un peu. Oui. C'est des choses importantes.
Créer les conditions et de l'échange, du plaisir, du bonheur pour des visiteurs, voilà, pour tout un chacun, pour ceux qui ont, et on en a tous besoin, et que c'est, ça peut changer une vie, un festival, une rencontre artistique, un moment de musique ou de concert.
Ouais, ça tisse du lien, et puis c'est important aussi d'avoir effectivement une vie autre que voilà juste la valeur travail, on va dire travail quotidien, etc. De créer du lien entre les gens, tout simplement. Je pense que c'est juste ça, c'est juste se retrouver dans des moments festifs. Bon, le moment festif, c'est voilà, c'est des moments importants, autres que voilà des valeurs de recherche professionnelle ou autre. Tu sors un petit peu du contexte aussi de la vie quotidienne et tu es juste là pour passer un bon moment.
Et ouais. Ça, c'est important.
Ouais, pour moi, c'est une des choses importantes, toi, ouais, de la vie, ouais. Ouais.
Quels sont tes projets, Nolwenn, tes envies pour les années à venir? Qu'est-ce qui mature en toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en gestation et que tu sais là, tu sais au fond de toi et que tu vois que ça va germer, que ça va naître?
Ouais, il y a des choses qui s'affichent de plus en plus. Après, je pense que l'âge faisant, tu commences à te construire, savoir un petit peu où tu vas, etc. Moi, je crois que je vais toujours rester dans une dynamique de faire des choses, que ce soit dans l'événementiel, dans l'artistique, dans le bâtiment, etc. Toutes les choses qui m'animent, finalement. Et après, moi, je me retrouve un petit peu avec plein de questionnements, et notamment l'insertion ou la réinsertion professionnelle, c'est-à-dire de la transmission, transmettre son savoir, et parce que si nous on ne le fait pas, effectivement, qui le fera, quoi. Donc transmettre juste voilà l'envie d'organiser un événement, tout le monde en est capable, c'est juste faut s'y coller. Après voilà, je pense que ouais, à terme j'aimerais bien effectivement monter une structure de réinsertion professionnelle ou d'insertion professionnelle, parce que réinsertion ça veut dire qu'effectivement, tu as déjà été inséré, donc on peut parler juste d'insertion, juste d'insertion professionnelle et de vraiment transmettre mon savoir, puisque moi, on me l'a transmis et j'aimerais bien le transmettre aussi un jour à d'autres.
Un savoir, des idées, des valeurs.
Voilà.
Un goût de la vie.
Ouais, un goût de la vie, un peu de bonheur, si y a moyen d'en tirer un petit peu quelque chose, mais effectivement, d'en tirer le meilleur en tout cas, mais je pense que c'est important de se placer aussi dans cette société. Il y a beaucoup de problématiques liées à plein de choses différentes, hein, économiques, sociales, et voilà, si nous il nous paraît qu'on ait une vie voilà qui se passe bien, etc., de pouvoir transmettre ça, ne serait-ce que ça, transmettre voilà juste le simple fait de vivre, d'avancer et d'être reconnu aussi par...
Oui, et que ça vaut le coup.
Et que ça vaut la peine, ouais. Ouais. C'est vraiment... c'est vraiment les choses importantes. En tout cas, pour ma part, hein, moi, je suis pas un politicien, mais je pense qu'à un moment, il faut revoir les choses et ne serait-ce que redonner goût, quoi. L'idée de rendement, de choses comme ça, ça vient perturber un truc qui était beaucoup plus simple à l'origine et qui, finalement, repousse, quoi. On se rend compte que ça repousse notamment la jeune génération qui, à un moment, soit se font mal parler, soit ont des petits salaires. Enfin, c'est un ensemble de
se
choses.
Se font maltraiter.
Ouais, se font maltraiter, tout à fait. Mmh. Et que du coup, c'est un ensemble de choses qu'il faut mettre à plat et reconstruire. Ouais, y a vraiment, vraiment des choses à faire. Ouais.
Ouais. C'est quoi le bonheur, Nolwenn?
Je ne sais pas exactement ce que c'est le bonheur. Moi, en tout cas, mon bonheur, c'est toutes les choses dont on vient de parler. Hein. Toutes ces petites choses de la vie. Avoir une pratique, être occupé aussi d'esprit, des mains, par plein de petites choses de la vie, quoi, envie d'avancer. Après, le bonheur, je pense que ça, c'est vaste. Mais je pense que voilà, ça peut contribuer, en tout cas, le bonheur d'aujourd'hui, malgré tout... par rapport à ce qu'on peut dire, par rapport au travail notamment, puisque c'est un terme qu'on a employé tout de suite, mais que je pense voilà, de retrouver tout simplement une envie, quoi. Une envie d'avancer, une envie de faire des choses. Voilà, je pense que c'est le bonheur, il n'est pas loin. Il est vraiment tout près, mais il faut juste se bouger un petit peu, voilà, je pense, pour essayer d'atteindre... d'atteindre le bonheur.
Pour finir, nous allons écouter une musique de ton choix. Et j'aurais bien voulu que tu nous présentes cet artiste ou ce morceau.
Alors, il me semble que c'est Marvin Gaye. c'est What's Going On. Donc, artiste black, hein, des années 60-70, américain, qui a eu une vie relativement courte, il me semble en tout cas, qui a dû décéder vers entre 26 et 28 ans, tué par son père, une espèce de policier intégriste, voilà, qui n'a jamais accepté que son fils soit comme ça. Et fasse de la musique, et du coup voilà, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, et c'est aussi un peu le démarrage de ma propre vie aussi, de ma propre existence, mon intérêt pour la musique, mon intérêt pour plein de choses, et voilà, pour moi c'est la poésie par excellence.
Merci Nolwenn.
Merci Vincent.
On l'écoute alors.
Brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Hey, father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the end. For only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh, picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see.
Je voudrais maintenant vous livrer la recette de la soupe aux poireaux. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que c'est la saison, parce que c'est bon, parce que c'est simple. Ah oui, je sais, parce que l'autre jour, un client m'a dit « Ah, elle est bonne ta soupe !»
la mienne n'est pas aussi douce, ce petit truc velouté, comment tu fais ? Bon, commençons par le début, les présentations. Tout est affaire de dosage, de mesure et de quantité. Rien de sorcier, rien que vous ne pourrez faire. La soupe, c'est le terme générique. On trouve dans cette catégorie le bouillon, le consommé, le potage, le mouliné, le velouté et d'autres encore. Le potage, c'est joli. Le velouté, ça fait envie. Le consommé, ça intrigue. Et la bisque, c'est le must. Alors, soupe, soupe de poireaux précisément. Pour commencer, pesez, allez, 1 kilo de poireaux par exemple. Avec ça, vous pourrez nourrir une famille nombreuse, en faire pour plusieurs jours et en mettre au congélateur, pourquoi pas, en donner à vos voisins. Coupez la barbe du poireau et l'extrémité verte. Si vous avez beaucoup d'argent ou des lapins à nourrir, taillez plus court. Moi, comme je fais attention à ma marge, je coupe le plus haut possible. Ensuite, coupez dans la longueur cette espèce de légume tout en longueur. Pourquoi ? Parce que ça vous permettra de le laver une première fois et d'enlever le plus gros de la terre qui se cache entre les feuilles avant de le couper en tronçons et de les plonger dans un deuxième bain afin de peaufiner la toilette. Ensuite, une fois égoutté, versez le tout dans une cocotte, une gamelle, une casserole suffisamment grande, huilée d'olive et préchauffée. À feu doux, les poireaux commenceront à suer, puis à fondre doucement. Remuez de temps en temps, observez la chose se faire. Ajoutez un peu de thym, un peu de sel, du poivre, et pourquoi pas une bonne cuillerée de curcuma. Ah oui! Le curcuma. C'est l'instant de la douceur et des parfums. Ajoutez maintenant la même quantité de pommes de terre, épluchées évidemment, coupées en morceaux. Mélangez le tout avec la grande cuillère de bois de votre mamie et que le tout se mêle. Comme j'ai tout mesuré, savamment, en préparant cette émission, chers auditeurs de Herdivois, versez maintenant pour notre quantité de légumes, ici 2 kg, 3 litres d'eau. Par moment, l'eau de la commune de Die est tellement javelisée qu'il est préférable d'aller la puiser dans les sources de Quin. Laissez cuire l'ensemble à feu moyen doux une bonne trentaine de minutes. C'est à la louche. Ça dépend un peu de la qualité de la pomme de terre. Pour finir, quand vous jugez de l'instant, mixez le tout avec votre super robot, votre mixeur Moulinex. Je ne sais pas si vous partagerez mon point de vue, mais je n'aime pas quand il reste des morceaux. Ça gêne le velouté, ça fait pauvre, ça laisse l'impression d'inachevé, de « ma grand-mère faisait mieux ». Et là, Stéphanie, on peut lancer notre musique parce que j'avais envie de vous faire écouter Mozart l'Égyptien, évidemment.
Post-scriptum. L'effet bleu des champs, sous les souliers des rêveurs, au-dessus de l'herbe verte des prés, jaillissent comme des papillons d'amour. D'amour, chante seul dans sa langue de marcheur, celui qui songe tout bas. Grand merci à Nolwenn Goupil, à Stéphanie Beauclair pour la technique. Merci à toute l'équipe de RDWA. Merci à vous. Au revoir. C'était Autour de la table, une émission présentée par Vincent. On se retrouve le mois prochain. Au revoir.